Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Amérique et vous. Abdourahman Dia à la présentation et heureux de vous retrouver. Nous allons parler cette semaine des relations entre les États-Unis et la France et généralement avec l'Europe également. Cette semaine donc, le président Donald Trump a renouvelé ses attaques à travers Twitter contre son homologue français. Emmanuel Macron avait suggéré la création d'une armée européenne, une proposition qui est soutenue par la chancelière allemande Angela Merkel. Mais le président Trump juge cette proposition insultante et demande aux Européens d'augmenter plutôt leur contribution à l'Europe, à l'OTAN plutôt. Nous allons parler de cette problématique des relations transatlantiques. Et comme invité, nous avons Jean-François Seznec, professeur Seznec, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je rappelle le numéro 1 pour appeler et participer à l'émission, c'est le 001-202-205-2633. Professeur Seznec, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment expliquez-vous cette sorte de passe d'armes, si on peut le dire ainsi, entre les présidents des deux pays qui sont pourtant très très proches, surtout dans un contexte où on célébrait, ou en tout cas on commémorait le centenaire de l'armistice?
C'est certainement un problème important dans les relations entre les deux pays. Pourquoi ça arrive maintenant, c'est assez difficile à savoir, mais je pense que le président Trump a besoin de montrer à tout le monde qu'il est le chef, si vous voulez, de l'OTAN et que qu'il a besoin du support des Européens et qu'il veut que les Européens augmentent drastiquement leur contribution à l'OTAN. Et bien sûr, la réponse des Européens et du président Macron l'a beaucoup choqué parce que lui veut toujours contrôler, si vous voulez, il voudrait que les États-Unis contrôlent la défense européenne tout en ayant beaucoup plus de support des Européens, alors que les Européens commencent à comprendre qu'il devient très difficile de pouvoir compter sur les États-Unis.
Peut-être risqué, c'est ça?
Pardon?
C'est peut-être risqué de continuer à dépendre des États-Unis?
Ben oui, bien sûr, parce que je pense que beaucoup d'Européens maintenant trouvent que le président Trump n'est pas vraiment crédible en ce qui concerne et ne peut pas, on ne peut pas vraiment lui faire confiance en ce qui concerne la défense la défense de l'Europe vis-à-vis de la Russie, par exemple.
Mais en fait, les pays de l'OTAN étaient tombés d'accord pour amener à 2% du PIB de chaque pays contribuer au budget de défense d'ici à l'année 2024. Là, au moins, tout le monde est d'accord.
Oui, mais je pense que le président Trump trouve que c'est trop... c'est trop long et c'est pas assez. Ça prendra trop de temps et ce n'est pas assez d'argent, je pense. Et que lui voudrait toujours avoir beaucoup plus de contributions européennes, tout en ne perdant pas le contrôle, bien sûr, de la défense finale, quoi.
Professeur, restez avec nous. Nous avons un auditeur, Alphonse Mbouaki, qui nous appelle de Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Abdou.
Alors, vous dites que l'Europe veut avoir sa propre force dissuasive en cas d'une intervention.
Parce qu'elle n'a pas confiance en Donald Trump, comme vous l'avez dit à votre intervenant, suite à son retrait de l'OTAN. Donc, elle se trouve esselée. Comme la Russie là, est une menace pour l'Europe, c'est pourquoi.
La Russie qui bande un peu les muscles, quoi.
J'ai une armée propre à l'Europe pour qu'en cas d'attaque, ils puissent répondre efficacement. Donc, je pense que la brouille entre la France et les États-Unis a commencé depuis jamais. Hein. Par exemple, dans l'affaire du retrait des États-Unis dans
l'accord de Paris.
L'accord nucléaire de l'Iran. Donc, je pense que ce sont des alliés. un jour peut-être, sinon si Trump part demain, Trump, je pense que Trump a raison aussi, parce qu'il ne veut pas être pesé beaucoup seul dans le budget de l'OTAN. C'est ainsi qu'il renvoie la balle. Mais ce sont déjà entendus, je ne sais pas pourquoi Trump veut former une autre armée. L'OTAN, c'est ici déjà, c'est question seulement de gonfler le budget de l'OTAN, de participer tous, tous les pays européens, pour que l'Europe se sente protégée en cas d'attaque de la Russie, de la Chine, elle peut répondre.
D'accord. Voilà.
Voilà,
merci beaucoup Alphonse Mbouaki. Alors, professeur Jean-François Seznec, notre auditeur de Kinshasa, a évoqué cette possibilité d'une armée propre européenne, mais quelle est la viabilité de cette armée? Est-ce que c'est une armée qui peut faire face à la menace russe, par exemple? Si elle verrait le jour.
Oui, c'est assez difficile à dire. Les forces militaires européennes sont quand même importantes. L'armée allemande est très assez puissante et est assez forte. L'armée française est aussi assez forte et puissante. Et l'armée française a aussi des armes nucléaires.
C'est une force nucléaire.
Donc, dans un sens, il y a effectivement pas mal de possibilités que l'armée européenne puisse se défendre contre la Russie, mais à l'heure actuelle, la Russie est quand même extrêmement forte et même si à long terme une armée européenne pouvait se développer, une force sérieuse peut se développer, ça va prendre encore beaucoup de temps pour faire une armée qui soit vraiment efficace. Donc je pense que effectivement, ce serait peut-être une bonne chose à faire, mais ça va prendre énormément de temps et en attendant, il faut vraiment que les Européens continuent à travailler avec l'OTAN et avec les États-Unis.
Et vous pensez que c'est peut-être une brouille temporaire ou bien c'est plus sérieux que ça? Les Européens ont-ils des raisons d'être inquiets?
Oui, à mon avis, c'est quand même c'est une brouille qui est assez importante parce que ça va prendre pas mal de temps pour retourner au sentiment positif qu'il y avait entre l'Europe et les États-Unis. Même s'il y a un changement de président, ça va prendre quand même beaucoup de temps parce que les Européens vont penser toujours que bon, même s'il n'y a plus le président Trump, il pourrait y avoir un autre président dans le même style plus tard et que par conséquent, on ne peut pas vraiment faire confiance au bouclier américain, si vous voulez, pour défendre l'Europe. Donc, ils vont commencer à regarder de beaucoup plus près la possibilité de développer une force européenne. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui coûtera encore plus cher que la défense de l'Europe avec l'OTAN. Donc, c'est pas évident que ça se passe très rapidement et c'est pas évident que ça marche très bien non plus, bien sûr.
Nous allons à Abidjan. On a un auditeur, Steve Boko. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Oui, et vous, quel est votre point de vue sur ces rapports entre les États-Unis et la France actuellement, vu d'Abidjan, par exemple?
Ce rapport, moi, je vois que c'est un bon rapport, hein, parce que, comme le dit mon confident Alphonse, la France, ben, l'Amérique doit avoir sa propre force pour défendre ses intérêts, parce que nous sommes dans un monde où, c'est-à-dire, nous devions se concentrer sur nous-mêmes pour ne pas tendre sur les mains aux confidents. Vous voyez, donc, je pense que la France, l'Amérique, M. Trump, fait un travail un peu honorable. Donc nous devons beaucoup l'encourager dans son nouveau service et qu'il essaie de pouvoir essayer de pouvoir organiser sa propre force. Parce que lui, je vois qu'il est un peu raciste, mais grâce à sa réflexion, à la fin des choses, nous déduisons que vraiment, il a eu une bonne réception. Et que s'il essaie d'organiser sa propre chose pour pouvoir faire sortir l'Amérique de son rang, ça ne rien que. Nous pousse à être autonome nous-mêmes.
Voilà, merci beaucoup pour votre contribution, Steve. Professeur Seznec, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Au début, on a constaté une certaine complicité entre le président Trump et Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Juste pour jouer aux devinettes.
C'est difficile à savoir, bien sûr, ce qui s'est passé exactement, mais je pense que la confiance, enfin que le président Macron en particulier essayait, si vous voulez, de flatter le président Trump de façon lui présentant les défilés militaires que le président aimait bien, que Trump aimait bien, en le traitant royalement quasiment, et pensant que à cause de ça, il pourrait amadouer, si vous voulez, le nationalisme du président Trump. Or, ça n'a pas du tout marché. Bien sûr, le président Trump aime bien être flatté, mais ça ne change rien au fait que ce soit quand même un président qui soit très nationaliste et qui veut tous les avantages, qui veut que les Américains ou que l'Amérique continue à dominer un petit peu la relation avec les Européens. Donc ça ne changera pas. Je pense que les Européens se rendent compte que ça ne changera pas et que par conséquent il y a une perte de confiance entre les deux. Si
c'est vrai que c'est assez intéressant, mais le président Macron l'a aussi attaqué à la tribune des Nations Unies, puis récemment à l'occasion des 100 ans de l'armistice, en critiquant notamment l'isolationnisme américain sous Donald Trump. Donc il joue un peu sur les deux registres, si on peut dire.
Oui, absolument. Et il d'un côté, il flatte le président, de l'autre côté, il montre les idées européennes qui sont très différentes et des idées américaines. L'Europe en ce moment elle-même a des problèmes à l'intérieur de l'Europe, où l'Europe est en train d'un peu d'éclater à cause des tendances nationalistes de certains pays. Donc Macron essaye de pousser pour avoir des liens entre les pays européens qui sont beaucoup plus ouverts et qui sont beaucoup moins centrés sur le nationalisme de chaque pays et sur une idée européenne, une idéologie européenne, si vous voulez. Bien sûr, c'est quelque chose que Trump ne comprend pas vraiment très bien.
C'est vrai que ces deux pays sont alliés depuis très longtemps, hein, mais ça n'empêche que les relations n'ont pas toujours... Et ce n'est vraiment pas nouveau, ces relations quelque peu heurtées. Par exemple, sous François Mitterrand, qui disait que les États-Unis nous font payer leur chômage et leur déficit. C'est nous qui permettons à Reagan de continuer une politique qui nous écrase. Il se fâchait un peu de la flambée du dollar à l'époque et la hausse des taux d'intérêt américains. Et une autre citation de Mitterrand qui disait que la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Ça me permet un peu peut-être d'aborder aussi la question ce n'est peut-être pas encore une guerre commerciale, mais ce n'est pas non plus, vous voyez un peu, c'est pas facile entre les deux.
Non, absolument. Absolument, les désaccords commerciaux sont très importants.
Ce n'est pas nouveau.
Il est certain que l'Europe, et pas seulement la France, hein, l'Europe vis-à-vis des États-Unis est plus protectionniste vis-à-vis des États-Unis que les États-Unis ne le sont vis-à-vis de l'Europe. Et le déficit commercial très important qu'il y a surtout entre l'Allemagne et les États-Unis est très élevé et quelque chose qui ne peut pas se continuer. Il faut que ça change. Et ça, c'est quelque chose que Trump voudrait vraiment changer. Il a peut-être pas une approche très délicate et diplomatique, mais c'est quelque chose qu'il veut changer.
Et là, vous lui donnez raison sur cet aspect-là.
Oui.
D'accord. Nous avons, je crois, Benoît depuis Kinshasa également. C'est ça ? Benoît, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Oui, on vous écoute. Vous avez une question ou vous voulez juste contribuer ?
Oui, j'ai une question, en plus une suggestion encore.
Allez-y.
Ma question est de savoir pourquoi monsieur le président des États-Unis, Donald Trump, n'arrive pas à respecter ses homologues. C'est-à-dire, mais il n'arrive pas à reconnaître leurs droits et il n'a plus de temps son devoir envers les autres. Ça, c'est ma première question.
Allez-y pour votre contribution, oui.
Oui, ma deuxième question est de savoir où, depuis que les États-Unis ont débuté, a été comme une grande puissance au monde, n'a jamais été attaqué, que ce n'est que dans le règne du président Donald Trump que la Corée du Nord a essayé d'attaquer les États-Unis et à faire même peur les États-Unis pour ne pas faire face à la Corée du Nord. Je sais pas que l'Amérique a demandé une négociation. Et ma juste contribution à savoir est de dire que si réellement Donald Trump a une bonne idée, il peut se référer à d'autres présidents tels que Obama, Bill Clinton et les autres. Parce que c'est sur sa reine que les États-Unis deviennent maintenant faibles. Voilà, il commence à s'attaquer à ses homologues parce qu'il n'a pas vraiment de bons conseillers. Et s'il avait de bons conseillers, il ne pouvait pas faire ce qu'il est en train de faire. Comment que l'idée européenne...
On a bien compris, Ben. Merci beaucoup. Alors, professeur Seznek, il pose la question. Il pense que le président Trump ne respecte pas assez ses homologues. Est-ce que c'est votre avis ou bien vous pensez que c'est peut-être son style à lui de se faire entendre?
C'est un peu des deux. Je pense que c'est certainement une question de style. C'est la façon dont il négocie. Il négociait déjà comme quand il était homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il a, il pense que s'il insulte les gens, ça va les obliger à se défendre personnellement et non pas à défendre leurs intérêts aussi bien. Donc, il a, si vous voulez, c'est vraiment dans son style. Et d'un côté, il va être, si on fait ce que, si les gens font et les autres présidents de l'Europe et premiers ministres font ce que Trump veut, bien sûr, là, il sera très content d'eux, il leur dira des gentilles choses, mais à l'opposé, il essaye de leur montrer que bon, on va vous insulter personnellement, vous attaquer directement et non pas diplomatiquement comme c'est normalement le cas. Donc c'est plutôt une question de, comme vous le dites, c'est une question de style, hein, vraiment.
D'accord, nous allons en Guinée, nous avons un auditeur, Lansine Kaba, bonsoir.
Ouais, bonsoir monsieur.
Alors, quel est votre point de vue sur le sujet du jour dans l'Amérique et vous?
Voilà, bon, moi je pense que quand on dit que Donald Trump ne respecte pas ses homologues, bon, ça, moi je ne vois pas ça, c'est pas ça le problème, mais c'est que le nationalisme existe partout dans le monde. Mais le problème aujourd'hui de l'Europe est d'être suivi des États-Unis. Et c'est cette conséquence aujourd'hui que l'Europe est en train de récolter. Il faut voir aujourd'hui. Même si, quand l'Amérique sanctionne un pays, donc l'Amérique oblige les Européens donc, à observer la même sanction contre cet État. C'est comme si donc, les pays européens n'étaient pas un État souverain indépendamment des États-Unis.
Quand je vois votre commentaire sur notre page Facebook, vous semblez dire que les Européens ont trop dépendu des États-Unis, dépendent trop des États-Unis et que c'est peut-être ce qui cause un peu ce problème aujourd'hui.
Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, si vous prenez l'Europe en général, aujourd'hui, ils sont jaloux comment ça concerne l'OTAN, la gestion de l'OTAN. Donc, pour les Européens, l'Amérique, c'est-à-dire, monopole, manipule l'OTAN, fait de l'OTAN ce qu'il veut. C'est normal. Comme, c'est-à-dire, on dit souvent, c'est la main qui donne, c'est la même main qui dirige ou qui commande. Donc, je ne peux pas payer. Et que vous qui me commandez, si nous devons contribuer à l'autre à 100% et que moi seul je paye 50% ou bien 115% alors que nous sommes au nombre de 10 personnes, comment voulez-vous que moi, comment et les 9, comment ne parlent la même voix et le même contrôle sur la chose? C'est pas normal.
Donc, d'accord. Merci beaucoup, Lansine Kaba. Alors, professeur Jean-François Seznek, cet auditeur de la Guinée, semble dire que c'est normal parce que les États-Unis contribuent beaucoup plus. Mais est-ce que les États-Unis non plus n'ont pas un certain intérêt? Qu'est-ce que gagnent les États-Unis dans cette alliance?
Bah, il est certain que c'est quand même la défense de l'Europe est très importante pour la défense des États-Unis. Et les intérêts européens sont tout à fait en parallèle avec les intérêts américains en ce qui concerne la défense politique et économique vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de tout un tas d'autres pays. Il y a donc des intérêts très en commun. Il y a aussi quand même une idée de démocratie fondamentale qui existe entre qui joint l'Europe et les États-Unis, et ça effectivement on est un peu en train de perdre ça, parce que les attaques de Trump contre les dirigeants américains, les dirigeants européens affaiblissent ce sentiment démocratique. Mais il est certain que dans un sens les Européens aussi ont quand même un problème, parce que c'est vrai que les États-Unis payent beaucoup trop et que les Européens devraient être beaucoup plus efficaces dans la façon dont ils dirigent leurs affaires militaires, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les Européens sont extrêmement dépendants du dollar américain à long terme. Et c'est parce que je pense qu'une des raisons, c'est que les réserves financières de l'Europe sont toutes en dollars finalement, et que ça, il faudrait que ça puisse changer si la monnaie européenne était plus forte et beaucoup plus profonde, si vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu basé sur la faiblesse de l'Europe. Si les pays européens étaient plus unis, si vous voulez, ça leur donnerait beaucoup plus de facilité d'être en concurrence avec le dollar américain.
D'accord, nous allons peut-être prendre le dernier auditeur, Mamadou Traoré. Mamadou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste, bonsoir, monsieur le professeur, et bonsoir à tous les auditeurs de VOAfrique.
Alors, vous dites que vous n'avez rien contre la création d'une armée européenne, mais vous ne semblez pas d'accord avec la manière.
Bien sûr, je ne suis pas contre la création d'une armée européenne, mais quand on regarde le fond des choses, on donne raison à Donald Trump. Pour moi, Donald Trump était un patriarche qui veut coûte que coûte montrer la supériorité de l'Amérique vis-à-vis aux autres États du monde entier.
J'espère que vous ne lui donnez pas raison pour cela.
Quoi?
Vous lui donnez raison parce qu'il se comporte en patriarche ou bien...
En plus de ça, si vous voyez que Donald Trump se tape la patronne, pourquoi? Parce que dans toute l'Union européenne, l'Union américaine, dans toutes les unions du monde entier, nous voyons que c'est l'Amérique qui contribue plus. Donc, raison pour laquelle l'Amérique et les Américains ont vraiment l'audace de se taper la patronne devant les autres organisations. Sinon, à part ça, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'ils s'ingèrent dans la gestion d'un continent à un autre.
Donc, si vous voyez. Merci beaucoup, Mamadou. Vous nous appeliez du Mali. Professeur, peut-être un mot sur... Est-ce que l'Afrique devrait regarder ce bras de fer, si on peut l'appeler ainsi, avec intérêt? Est-ce qu'il y a... je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que l'Afrique a peut-être un quelconque intérêt dans cela, ou en tout cas devrait s'inquiéter?
À mon avis, certainement, parce que la sécurité des pays africains, surtout la sécurité des pays du Sahel en particulier, et même du Congo, dépendent même beaucoup du support que les pays africains ont des États-Unis et de l'Europe.
Tout à fait.
Les États-Unis et l'Europe se sont toujours en bisbille, pour utiliser un terme un peu léger, ça va limiter leur capacité à travailler ensemble contre les forces négatives qu'il y a dans le Sahel en ce moment. Et on a vu qu'au Mali, par exemple, il y avait beaucoup de coopération entre la France et les États-Unis.
Voilà.
Si vraiment il y a des tensions entre les deux pays très importantes, c'est cette coopération,
c'est un problème,
va diminuer.
Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Seznec de Georgetown University. Merci à tous les auditeurs. Je remercie Cheikh Thiero, Firmin Koyaveda et Souleymane Traoré. Excellente écoute en compagnie des programmes de VOA Afrique.